France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous sommes le 1er décembre, nous nous approchons de la période des fêtes. Bonne occasion de parler de la fête, sous toutes ses formes. Aujourd'hui, la fête serait-elle aussi politique ? La fête, on la rêve vaste et spontanée, tout au plus ritualisée pour que d'eux-mêmes les individus y retournent régulièrement. On la rêve simple et purement joyeuse, moment de trêve dans les jours de travail. On la rêve magnifiquement collective pour oublier nos tâches professionnelles et privées où nous sommes forcément un peu dans un coin chacun d'entre nous. Bref, on la rêve comme la rêvait Jean-Jacques Rousseau, émerveillé dans son enfance par le passage du régiment de Saint-Gervais, par les danses et les flambeaux des soldats et des villageois, les femmes aux fenêtres qui descendent rejoindre tout le monde et apporter du vin, accompagnées d'enfants un peu endormis et hébétés de joie. La fête est politique pour Rousseau. Elle anéantit inégalités et faux-semblants, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Elle célèbre les liens entre nous. Elle est pour lui le contraire de ces spectacles théâtraux où certains admirent d'autres sans être eux-mêmes de la partie. Célébrer le lien, le tout social, c'est aussi ce que le père de la sociologie française, Émile Durkheim, saisit dans la fête, notamment religieuse. Il affirme qu'en réalité, le sacré de la religion n'est que du social, qui de temps en temps s'auto-célèbre lui-même. Le surnaturel religieux a pu aider, mais il s'éteindra certainement à l'avenir, assure Durkheim, pour laisser place au véritable Dieu, qu'est la société elle-même. De Rousseau à Durkheim, la fête serait-elle une extase politique et sociale ? Bonjour Blaise Backofen.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Cergy, spécialiste de philosophie politique et notamment de Rousseau, philosophe majeur du XVIIIe siècle. Et bonjour Mélanie Plouvier.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Côte d'Azur, spécialiste de philosophie politique et sociale et notamment d'Émile Durkheim, qui a écrit toute son œuvre à la charnière des XIXe et XXe siècles.
Au micro Robert West, eh bien oui, 14 juillet, c'est un des rares jours de l'année, 3 ou 4, où l'on ne se demande pas en se réveillant, mais quel jour sommes-nous donc ? On a peu dormi, et même si on voulait dormir, et pour cause. Bal populaire au carrefour, terrasse de café prise d'assaut, lampions accrochés aux arbres, tout le monde était dehors hier soir. On dansait sur les trottoirs, et revanche du piéton, on dansait même sur les chaussées. Noir de Beaune, boulevard bloqué par la circulation. En mains endroits, les voitures étaient pare-choc contre pare-choc. Les agents, bons enfants, fermaient les yeux, ou plutôt se bouchaient les oreilles, pendant que les automobilistes donnaient un concert à leur façon. Les orchestres amateurs attirent la foule des badauds. On n'ose pas toujours danser avec les autres, alors on regarde bien sagement évoluer les couples sur un morceau de trottoir. Flonflon traditionnel, pétard, avertisseur de voiture, oui, bien sûr, mais où sont les 14 juillet d'antan, les vrais 14 juillet ? Ceux qu'évoquent un peu nostalgiques en pensant à leur jeunesse, les vieux messieurs et les vieilles dames.
Il y avait cette orchestre, il y avait des violons, il y avait un piano.
Sur la
moi,
place.
J'en ai vu, oh, oui. Pas ici, moi j'en ai vu à Mille de Rolin, à la place Baudin, c'était joli.
C'était un petit sujet, un petit reportage d'interactualité le 14 juillet 1964, à propos donc de la fête du 14 juillet. Blaise Backofen, on entend dans ce reportage que beaucoup disent déjà que la fête, son idéal était mieux réalisé avant. Aujourd'hui, on se dit que c'était mieux peut-être en 1964. On dansait davantage dans les rues. Je n'ai pas vérifié. Ça s'appelle un peu un préjugé ou une notion commune. Cette idée que la fête a été parfaite un jour, qu'elle ne l'est plus. Blaise Backofen.
J'ignore si la fête a été parfaite. Je pense que si on prend l'exemple du 14 juillet, c'est une très bonne entrée en matière sur cette idée de la fête politique, puisqu'il y a un premier 14 juillet, c'est la fête de la Fédération, qui est elle-même le résultat de fêtes spontanées, et ça c'est très important, qui ont amené à l'organisation à Paris d'une grande fête de la Fédération qui, elle, a été organisée par le pouvoir. Et c'est avant de la fête de la Fédération qui a donné finalement l'origine du 14 juillet, eh bien, c'est peut-être cette fête spontanée, en partie primitive, que pense alors Rousseau, peut-être, ou que rêve Rousseau, ou que décrit Rousseau comme étant l'essence de la fête, plus que la fête ritualisée, la fête civique qui est construite peut-être un peu artificiellement.
Trop bien organisée, on va dire.
Trop bien organisée.
Par un pouvoir, malgré tout, surplombant. Mélanie Plouvier, évidemment, Durkheim, me semble-t-il, ne serait pas loin de penser que la fête véritable, pour lui aussi, c'est la fête à laquelle tout le monde participe, dans un tel moment d'excitation, voire d'extase, qu'il n'y a pas besoin d'organisateur extérieur.
Alors, certes, pas besoin d'organisateur extérieur, mais pour autant, c'est tout le temps ritualisé, c'est tout le temps organisé chez Durkheim. Je ne pense pas que par rapport à Rousseau, il perçoive une fête primitive qui serait purement spontanée, qui ne serait pas déjà très organisée socialement. Ce qui est intéressant, c'est que cette organisation sociale, dans la fête, elle se donne via de la danse, de la musique, de la nourriture. On l'a même entendu, une forme d'excès, hein, les klaxons qui perturbent le fond sonore de la ville dans l'extrait que vous avez cité. Et il y a là une caractéristique assez intéressante de la fête, comme, en tout cas dans la perspective durkheimienne, c'est organisé socialement, mais à même une matière qui est une matière assez spontanée, la musique, la danse, la nourriture, une forme de joie organisée. Pour autant, alors c'est assez intéressant chez Durkheim, la fête n'est pas nécessairement une fête joyeuse. Ça peut être une fête triste, le deuil, les cérémonies collectives de deuil, par exemple, sont également pour lui des fêtes. Et quand on y réfléchit bien, c'est vrai que pendant une cérémonie même privée de deuil, on mange, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir ce moment collectif ensemble. Et donc, ce qui prime, je crois, dans l'organisation, dans la définition durkheimienne de la fête, c'est cette idée finalement d'un moment particulier ritualisé grâce auquel les individus font communauté, sont, selon ces expressions, c'est un moment d'effervescence collective.
Oui, mieux que l'extase, même s'il peut y avoir des moments d'extase.
Il peut y avoir des moments d'extase, mais ça peut être des extases tristes, ça peut être des... Ce qui compte, c'est vraiment cette idée qu'au moyen d'un ensemble de cérémonies, de rituels, chaque individu se dépasse dans quelque chose de plus grand que lui, le collectif.
Oui, alors on va y revenir sur cette chose transcendante qui n'est pas religieuse au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire impliquant du surnaturel. On va bien sûr y revenir, Mélanie Plouvier. Le point qui semble important là et qui peut-être distingue Durkheim de Rousseau, quoique Durkheim ait lu Rousseau, hein, ça on le sait et on le sent, c'est le fait, Blaise Coffin, que les tristesses collectives, les célébrations dans le chagrin, sont du même ordre pour Durkheim. C'est-à-dire que c'est la communauté qui s'auto-célèbre malgré tout dans son chagrin. Pensez-vous qu'une telle idée existe chez Rousseau ?
Alors, je pense que ce dont on a beaucoup parlé jusqu'ici, c'est effectivement la fête ritualisée, ce qui veut dire profondément sociale, et même si elle a une part de spontanéité, codifiée. Vous avez commencé en évoquant comme raison ou prétexte de cette série sur la fête, les fêtes, comme on dit. Et c'est intéressant qu'on dise les fêtes à propos
de
fêtes qui sont des fêtes parmi d'autres. Et dire les fêtes, ça donne le sentiment qu'il y a des fêtes plus importantes que d'autres. Alors, en l'occurrence, il s'agit de deux fêtes joyeuses. Effectivement, il y a des fêtes tristes. C'est vrai, quand on prend la fête au sens sociologique.
Le 1er novembre, par exemple.
Alors, ça peut être évidemment la Toussaint, effectivement, ça fait partie. Il y a d'autres fêtes, mais tout simplement les cérémonies de deuil, qui sont des cérémonies, on peut les appeler fêtes, effectivement.
Les fleurs devant le Bataclan.
Il peut y avoir cela aussi.
Les petits mots.
Et à propos, justement, de ces fêtes qu'on appelle les fêtes, je trouve assez frappant qu'il y ait cette évolution qui fasse que, à un moment, il y a des fêtes dans l'année qui sont les fêtes.
Oui.
Et ça, c'est très paradoxal, parce que sémantiquement, il y a toutes sortes de fêtes. Et il y a une dimension obligée d'une certaine façon dans ces fêtes qui vont venir, qui font qu'elles sont joyeuses et qu'en même temps, chacun le sait, elles ne sont pas toujours si joyeuses que ça.
Sociologiquement, beaucoup de gens n'aiment pas tant qu'on le croit spontanément cette période. Ça renvoie à la famille comme groupe social qui n'est pas toujours facile pour tout le monde.
Voilà, il y a le caractère familial de la fête de Noël, il y a le caractère... Alors, pour la fête de Noël, elle est aussi chrétienne et religieuse pour certains. Et à la fête du Nouvel An, qui est d'une autre nature. En tout cas, la fête de Noël, d'une certaine façon, c'est tout un travail. Et c'est paradoxal parce que la fête telle qu'on peut la penser, et telle que la pense, je pense, aussi Durkheim d'ailleurs, c'est une sorte de moment où on se sépare, où on cesse d'être dans ce rapport d'obligation, de contrainte. Il y a une dimension contraignante dans les fêtes qui est assez paradoxale. Je pense que la fête, au sens général, peut aussi avoir quelque chose d'imprévu et d'imprévisible. Et alors là, je pense qu'effectivement, Durkheim socialise davantage la fête. Chez Rousseau, ça peut se ritualiser après coup. Mais pour ce qui est de la fête rituelle, au fond, c'est toujours une forme de durcissement de quelque chose et... Oui, de politisation de quelque chose qui est d'abord social, je dirais.
C'est alors là, raison. Évidemment, la notion de contrainte est au cœur de la sociologie de Durkheim, Mélanie Plouvier. Je présume qu'il dirait, après cette explication sur Rousseau de Blaise Bacophon, que bien sûr, on a le sentiment qu'il n'y a aucune contrainte sociale dans le fait de faire la fête ensemble spontanément, mais tout l'objet de Durkheim est de dire qu'il y a de l'obligation, il dit même de la coercition, de la contrainte sociale, dans le fait même que nous ressentions l'envie collective de faire la fête.
Exactement. C'est-à-dire que ce sentiment de spontanéité qui se donne par excellence dans la fête, on est dans la fête qui semble désorganisée, qui semble spontanée, qui semble... du côté du facultatif, de l'optionnel, Durkheim montre qu'en fait, cette fête spontanée, elle relève d'une forme d'obligation sociale. Et pour ça, il se tourne vers les sociétés dites premières. Très souvent, hein, c'est le geste qui fait aller chercher une vérité élémentaire du social dans les formes premières du social. Et il y a un phénomène qui le marque tout particulièrement dans les descriptions ethnographiques des fêtes premières. C'est le fait qu'il soit criminel et par là même pénalisé de ne pas y participer. Alors, c'est l'écho est très fort avec ce
vous
que vous disiez.
Vous parlez de quelle société, là ?
Les sociétés totémiques australiennes, par exemple. Il y a fête, mais les individus sont obligés d'y participer, au point que s'ils n'y participent pas ou s'ils y participent mal, il y a des sanctions, il y a des peines. Et donc, il y a là une forme, pour Durkheim, de vérité première de la fête, dans ce caractère obligatoire et au sens strict, hein, vu que la pénalité est associée à la non-participation. Et pour Durkheim, il y a là vraiment l'attestation de ce qu'il s'agit bien d'une forme de cérémonie sociale et non pas simplement de cérémonie privée. Il y a là également l'idée que derrière ce qui se donne comme une apparence de spontanéité, il y a en fait du ritualisé. Il y a une étiquette, il y a un cérémonial, il y a des prescriptions. Et que si l'on ne respecte pas cette organisation, il y a des sanctions. Je crois que c'est intéressant quand même, quand on y réfléchit, de revenir à cette description ethnographique de l'obligation de la fête pour analyser des phénomènes tels que les fêtes de Noël, dont on se dit qu'elles sont, oui, tout à la fois spontanées, mais très...
Et qui pèsent à certains.
Qui pèsent à certains.
Mais alors... On pourrait dire, juste pour enfoncer le clou sur cette idée d'une obligation sociale souvent inconsciente, c'est pas le mot de Durkheim, mais enfin, on sent bien que c'est à l'insu de nos intentions telles que nous y avons accès. Il ne dit pas inconscient, mais ça y ressemble furieusement. On pourrait se dire que dans la très belle description dans son enfance du régiment de Saint-Gervais qui passe et tout le monde descend et les femmes regardent aux fenêtres et soudain Rousseau raconte enfant qu'elles descendent, elles viennent servir servir le vin, d'ailleurs, au passage, elles viennent servir, elles. Y a une obligation de descendre, quand même. C'est-à-dire que je sais bien que c'est vécu dans la joie, mais Durkheim s'y retrouverait dans ce texte de Rousseau. Vous ne pensez pas, Blaise Bacophone ?
Il me semble que alors là, le motif de la fête est très souvent présent chez Rousseau. C'est même frappant, et je trouve, par rapport à son siècle, hein, je fais des petits sondages dans autre chose, l'encyclopédie Montesquieu, etc. On voit peu d'auteurs qui parlent autant de la fête que Rousseau. Oui. À mon avis, ça n'est pas un hasard. Et quelque chose de commun à ces différentes fêtes qu'il décrit depuis le devin du village jusqu'aux rêveries, donc ses premiers textes jusqu'au dernier texte, c'est que la fête apparaît bien souvent comme quelque chose qui arrive par surcroît et qui arrive en décalage avec ce qui devait se passer. Dans le cas de la fête du régiment de Saint-Gervais, qui est une très belle description qu'on trouve dans la lettre à D'Alembert, on retrouve quelque chose qu'on trouve... Alors, vous parliez des peuples premiers, Mélanie Plouvier. Il y a chez Rousseau une description de ce qu'on peut appeler la fête primitive, qui nourrit sa réflexion, qui évidemment n'est pas une description d'ethnographe. Il y a une part de fiction, il y a une part d'hypothèse, il y a un peu un travail sur l'ethnographie qu'on connaît en son temps grâce au récit de voyage. Et dans tous les cas, ce qui apparaît, c'est que la fête est présentée comme une façon de faire autrement ce qui aurait pu se passer. Dans le cas du régiment de Saint-Gervais, ils ont fini les exercices militaires et de façon assez imprévisible quand même, ils se mettent à parler, ensuite à boire, ensuite à danser. Et puis, les femmes, les enfants descendent, ça n'était pas prévu. C'est dit de façon assez claire. On le trouve, ça, également dans d'autres textes, notamment les descriptions de la fête primitive dans le discours sur l'égalité, dans l'essai sur l'origine des Landes, mais également dans les fêtes qu'il décrit, par exemple la très belle fête des vendangeurs dans La Nouvelle-Héloïse. Il y a toujours cette dimension de retrait par rapport à ce qui aurait pu se passer. Alors, de transgression, sans doute pas. Il n'y a pas cette dimension transgressive, même il insiste là-dessus. Mais disons de proposition d'une alternative, d'une autre façon de vivre ensemble. Mmh. Et juste sur ce point de la ritualisation, je dirais, ça me paraît très important, c'est que alors, la lettre à D'Alembert est évidemment un très beau texte et un des principaux textes où il parle de la fête. Mais le plus souvent, on se rencontre pour faire la fête. Chez Rousseau, on fait la fête parce qu'on se rencontre, et c'est la rencontre qui crée la fête.
Ouais, c'est très joli, et sans doute, c'est un idéal fortement présent, je pense, dans nos cœurs, dans nos représentations. Peut-être est-ce pour cela que nous sommes parfois, et d'aucuns diraient souvent, déçus par la réalité de la fête, qui l'idéal est tellement magnifique, il est rousseauiste, c'est sûr que le réel n'est pas toujours de niveau. Alors nous allons, je précise à nos auditeurs, dans cette série sur la fête, évoquer à nouveau la fête ritualisée de l'hiver, car Noël, Nouvel An, ça renvoie aussi à des fêtes anciennes qui ne sont pas toutes chrétiennes, cette fête au cœur de l'hiver, en espérant survivre. Hein. Oui, il y a ça. Jusqu'aux beaux jours qui reviendront. Nous parlerons de cela demain, en évoquant le dionysiaque chez Nietzsche et le rapport de Nietzsche aux fêtes de Nouvel An, notamment. Nous parlerons aussi de la fête obligée, dans notre troisième épisode, l'injonction à la fête, où nous creuserons encore ce problème qui n'est pas tout à fait absent de la pensée de Durkheim. Mais pour revenir à Durkheim, justement, évoquer à la fois les fêtes un peu tristes, évoquer la part du religieux, ce que nous a appris la religion en matière de fête, et le retournement extraordinaire que fait Durkheim à ce sujet, vous verrez. Je vous propose que nous écoutions un extrait des Formes élémentaires de la vie religieuse, qui est un ouvrage tardif de Durkheim, un gros livre de la fin de sa vie en 1912.
Le caractère distinctif des jours de fête, dans toutes les religions connues, c'est l'arrêt du travail, la suspension de la vie publique et privée en tant qu'elle n'a pas d'objectif religieux. Ce repos n'est pas simplement une sorte de relâche temporaire que les hommes se seraient accordés pour pouvoir se livrer plus librement au sentiment d'allégresse qu'éveillent généralement les jours fériés. Car il y a des fêtes tristes, consacrées au deuil et à la pénitence, et pendant lesquelles il n'est pas moins obligatoire. Mais c'est que le travail est la forme éminente de l'activité profane, il n'a d'autre but apparent que de subvenir aux nécessités temporelles de la vie. Il ne nous met en rapport qu'avec des choses vulgaires. Au contraire, au jour de fête, la vie religieuse atteint un degré d'exceptionnelle intensité. La vie religieuse et la vie profane ne peuvent coexister dans les mêmes unités de temps. Il est donc nécessaire d'assigner à la première des jours ou des périodes déterminées d'où toutes les occupations profanes soient retirées. C'est ainsi qu'ont pris naissance les fêtes.
Alors, nous venons d'entendre ce texte de Durkheim qui évoque le rythme, et le rythme, donc le temps, mais aussi l'espace. Nous avons besoin d'interrompre le cours ordinaire des choses. C'est ce que, en généralement, d'un point de vue religieux, on appelle le temps et l'espace profane pour installer du sacré. Pour Durkheim, ces notions sont sociologiques. En vérité, il s'agit d'installer de l'extraordinaire où nous sommes tous ensemble par rapport à l'ordinaire. Je vous propose, dans la foulée de ce texte, de poser la question de ce qu'est la fête, qui n'est pas uniquement une chose religieuse, même si celle-ci nous en a montré l'exemple, pour que nous ayons une conversation approfondie sur ce sujet. Voici un autre extrait d'Émile Durkheim du même livre.
Si nous avons peut-être quelque mal aujourd'hui à nous représenter en quoi pourront consister ces fêtes et ces cérémonies de l'avenir, c'est que nous traversons une phase de transition et de médiocrité morale. Les grandes choses du passé, celles qui enthousiasmaient nos pères, n'excitent plus chez nous la même ardeur, soit parce qu'elles sont entrées dans l'usage commun au point de nous devenir inconscientes, soit parce qu'elles ne répondent plus à nos aspirations actuelles. Et cependant, il ne s'est encore rien fait qui les remplace. En un mot, les anciens dieux vieillissent ou meurent, et d'autres ne sont pas nés. Mais cet état d'incertitude et d'agitation confuse ne saurait durer éternellement. Un jour viendra où nos sociétés connaîtront à nouveau des heures d'effervescence créatrice, au cours desquelles de nouveaux idéaux surgiront, de nouvelles formules se dégageront qui serviront, pendant un temps, de guide à l'humanité. Et ces heures, une fois vécues, les hommes éprouveront spontanément le besoin de les revivre de temps en temps par la pensée, c'est-à-dire d'en entretenir le souvenir au moyen de fêtes qui en revivifient régulièrement les fruits. Déjà, nous avons vu comment la Révolution institua tout un cycle de fêtes pour tenir dans un état de perpétuelle jeunesse les principes dont elle s'inspirait.
Merci à Nicolas Berger, notre réalisateur, pour ces deux lectures d'Émile Durkheim. Nous sommes dans le premier épisode de notre série sur la fête cette semaine. Mélanie Plouvier, vous êtes spécialiste de Durkheim. Dans ces deux textes que nous venons d'entendre, il suggère qu'il faut ces moments qui rompent le cours ordinaire des choses. La religion nous a beaucoup aidé à faire cela en distinguant le profane du sacré. Mais en vérité, c'est le social dans ses rythmes à lui qui déjà était à l'œuvre dans la religion. Le sacré n'est qu'une chose sociale ?
Oui, pour Durkheim, la religion est une forme sociale et se joue dans la religion des mécanismes sociaux qui peuvent aller, qui peuvent se donner à voir. C'est le sens de ce second texte en particulier, qui peuvent prendre d'autres formes. C'est-à-dire que du sacré, il y en a dans toute société, mais le sacré ne prend pas forcément une forme religieuse, pour le dire.
Du coup, ça complique parfois la compréhension, puisqu'il continue à dire du sacré, donc on croit qu'il parle le vocabulaire religieux.
Religieux, mais... alors qu'il peut y avoir une forme de sacralité laïque, si vous voulez. Alors, ce qui est très intéressant dans ces textes, et relativement à la discussion que l'on a, c'est qu'on voit combien la fête, on l'a dit, est ritualisée, est organisée, mais en même temps, combien elle se joue, je dirais, dans une rythmique, et dans une énergétique spécifique.
Oui.
Il y a dans la fête un rythme, une question de rythme. pour le dire très sommairement, on ne peut pas faire tout le temps la fête. Il serait inconcevable d'être tout le temps en fête. Et la, cette rythmique, c'est celle d'une périodicité. Il y a des retours périodiques de fête. Ça, c'est le premier élément qui est intéressant. Le second élément qui se donne également à voir dans, dans ces textes, c'est que ces moments de fête qui reviennent à période régulière sont des moments, nous dit Durkheim, d'intensité particulière. Les sentiments sont exacerbés, les sens sont à vif, et il y a de ce fait un excès dans la fête. Et l'idée est très intéressante, c'est-à-dire que c'est tout à la fois réglé, mais c'est en excès. On va au-delà de ce que l'on fait usuellement. Alors, Blaise Blackhoffen disait que ça se jouait autrement, la fête donnait à voir une alternative possible. Je pense que pour Durkheim, cette alternative, c'est celle de l'excès d'énergie. Il y a comme un surcroît d'énergie tout à fait particulier dans la fête. Donc, c'est précisément en raison de ce surcroît d'énergie qu'il n'est pas envisageable que l'on fasse tout le temps la fête, qu'il faut des moments de repos, d'alternance entre fête et non-fête. Alors, ce qui est assez fascinant dans les passages qui nous ont été lus, c'est que se donne à voir, en fait, dans la fête, un mécanisme social qui est même constitutif du social, ce que Durkheim appelle l'effervescence collective ou l'effervescence créatrice. Ce sont ces moments particuliers où les individus assemblés accèdent à un niveau transcendant par rapport à leur vie empirique quotidienne. Et c'est dans ces moments spécifiques d'effervescence collective que se créent, selon Durkheim, de nouveaux idéaux. C'est pour ça que l'effervescence collective est qualifiée...
Des idéaux moraux, des idéaux au sens moral. Alors, c'est ce que fait la société, elle nous oblige.
Alors ça peut être ça peut être des idéaux religieux, ça peut être des idéaux moraux, ça peut être des idéaux politiques, ça peut être même, pour Durkheim, les moments de création conceptuelle peuvent même se jouer dans ces moments particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans la fête, dans ces moments de regroupement, l'individu sent qu'il va au-delà de lui-même, qu'il est en excès par rapport à lui-même, qu'il se transcende. Et c'est dans ces moments où l'individu accède à un niveau de réalité supérieur que Durkheim qualifie de social, que précisément le social prend corps, prend forme. Et c'est pour ça que pour lui, ces moments d'effervescence collective sont primordiaux pour comprendre le mécanisme même du social. Alors, la difficulté, c'est que on ressort de cette fête en ayant vécu un moment tout à fait particulier, un moment d'énergie particulière, de création, de sentiments communs particuliers. On rentre chez soi et on retombe en dessous.
Donc ça, ce sera notre dernier épisode, je vous l'annonce tout de suite.
Les lendemains de fête
et gueule de bois.
Voilà. Et simplement pour clore, la difficulté, c'est que si on ne réactive pas, Durkheim dit même dans l'extrait que vous avez cité, si on ne revivifie pas ces idéaux, le social se délite. Et c'est cela la périodicité de la fête. C'est la nécessité de réactiver périodiquement ces idéaux qui nous font vivre en commun.
Alors, il y a un dernier point tout de même là qui est au cœur du deuxième texte de Durkheim, sur lequel j'aimerais que vous nous donniez des explications. Pour Durkheim, invoquer des dieux au sens religieux a été très commode, parce que ça crée du mystère et du surnaturel, et pour l'effervescence dont vous parliez, sociale, c'est parfait. Cela dit, il ne cesse de le répéter, le dieu de la religion, je cite, n'est que l'expression figurée de la société. L'idée de mystère n'a rien d'originel, c'est l'homme qui l'a forgé de ses propres mains en même temps que l'idée contraire. Donc en fait, on n'a pas besoin du surnaturel divin et religieux pour se mettre dans cet état. Et un jour, nous nous mettrons dans cet état sans le mystère divin et surnaturel. Cependant, nous sommes dans un moment où, il écrit en 1912, d'après lui, de transition. Les anciens dieux ne marchent plus, ils vieillissent et meurent, l'effervescence n'est plus provoquée même par les aspects les plus sublimes du christianisme, la charité, le prochain, tout ça, ça ne fonctionne plus, dit-il. Et est-ce qu'il pense que nous allons créer de nouveaux dieux avec une part de mystère ? L'être suprême pendant la Révolution française, c'est quand même un être quasi religieux, hein ? Ou bien est-ce que nous allons nous passer tout à fait de référence au surnaturel et au religieux ?
Alors, la question que vous posez est celle de la possibilité même d'une laïcisation complète hein, du sacré et la possibilité même d'une religion entièrement laïque ou civile. Question qui a occupé nombre de penseurs. Ce qui est intéressant dans la version qu'en donne Durkheim, c'est que dans les passages qui précèdent l'extrait que vous avez fait lire, il nous dit pourquoi les anciens dieux du christianisme ne suffisent plus. Bah, les principes du christianisme, par exemple, traiter humainement les esclaves. Bon, bah finalement, oui, ils sont passés. Cet idéal s'est en partie réalisé. Nous ne sommes plus dans une société d'esclavagisme. Et donc, il y a comme la nécessité de forger de nouveaux idéaux. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ces idéaux, il les lit en termes d'égalité. Ce sont des idéaux d'égalité. Ce sont des idéaux de justice sociale. Et si on se demande finalement ce que pourrait être la fête à venir,
oui,
qu'il appelle de ses voeux, ça serait finalement une fête qui permet de rendre le sentiment commun, de revivifier la société autour de cette exigence d'égalité. Alors, qu'est-ce que ce serait exactement, je ne sais pas, mais je trouve l'idée assez belle d'une fête de l'égalité.
Voilà. De l'égalité, alors plus d'être suprême, même, on en a eu besoin un moment dans la Révolution française, dit-il, mais on pourra donc fêter des valeurs toutes simples qui seront explicites sur le fait que c'est la société et aucun dieu surnaturel que l'on célèbre, c'est ça ?
Exactement, mais c'est tout de même la société que l'on célèbre.
Chaque année, le temps d'un week-end, le XVIIe siècle s'invite à Genève. L'escalade, c'est un anniversaire. C'est la victoire des Genevois sur les troupes du duc de Savoie qui a échoué dans sa tentative d'investir la cité en décembre 1602.
Et j'ai mes enfants qui sont porteurs de torches, qui étaient avant dans les petits bourgeois. Et ça reste toujours un moment très très attendu et vraiment magique pour tout le monde.
Partout, costumes, piquets hallebardes, tirs de mousquets, chevaux, personnages célèbres de la cité de Calvin de l'époque. Tout y est.
C'est une fête populaire, historique, ancrée dans la mémoire et dans l'histoire des Genevois, avec des valeurs qui sont chères aux Genevois, hein, la liberté, l'indépendance, la résistance aussi à quelque part. Et puis ça permet aussi de célébrer finalement des simples citoyens qui sont devenus des héros en 1602. Et je pense que ça représente bien les valeurs de Genève et de notre Suisse.
L'escalade, fête préférée des Genevois, a fait cette année encore briller les yeux d'un public venu très nombreux.
Vous venez d'entendre un reportage sur la fête de l'escalade à Genève. C'était sur la RTS en décembre 2019. La fête de l'escalade, elle existe toujours et elle plaisait beaucoup à Rousseau, Blaise Bacophone. Il en parle dans la lettre à D'Alembert. Qu'en dit-il ?
Alors, non, étonnamment, il n'en parle pas dans la lettre à D'Alembert.
Ah pardon, c'est pas dans la... Excusez-moi.
C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours surpris parce que dans sa correspondance, il dit qu'il ne manque jamais de célébrer cette fête, où qu'il soit, puisqu'il n'est pas resté très longtemps.
Ah, c'est dans sa correspondance qu'il en parle, d'accord.
Et il me semble très intéressant de rapprocher cette fête de l'escalade, qui date effectivement de la tentative du duc de Savoie en 1602 de prendre Genève. Et c'est le petit peuple genevois qui a repoussé le duc de Savoie. Et par la suite, effectivement, c'est le peuple lui-même qui commémorait ce moment. Alors aujourd'hui, c'est devenu une fête qui est tout à fait non seulement acceptée, on l'entend, mais organisée par les autorités. Pendant longtemps, elle était même assez mal vue. Et c'était une fête, d'ailleurs, pour une raison simple, c'est que le peuple se découvre agissant, se découvre soldat, se découvre citoyen, dans une Genève quand même de plus en plus oligarchique à l'époque où vit Rousseau. Alors, il me semble que c'est un exemple de la fête qu'il peut imaginer comme substitut à la fête qu'il, ou le spectacle d'ailleurs, qu'il critique dans la lettre à D'Alembert.
Alors voilà, il faut qu'on explique là, c'est très important, pas toujours simple à comprendre. Et d'ailleurs, je dois dire, j'ai encore plein de questions à ce sujet. La fête, la vraie, le vrai spectacle, c'est le contraire pour Rousseau des spectacles organisés où certains font le spectacle pour d'autres. Expliquez-nous sa critique du spectacle qui, malgré tout, a une alternative très, très festive.
Alors, la lettre à D'Alembert sur les spectacles, c'est pas son titre complet parce qu'il est très très long, le titre de 1758, est un livre, en fait, c'est très long, hein, qui est une réponse à l'article de D'Alembert, Genève, dans l'encyclopédie. Ou, pour le dire très vite, D'Alembert, influencé par Voltaire, préconise de modifier à la marge Genève et notamment d'installer un théâtre. Alors, en réponse à cela, et ce n'est pas l'objet principal de thème d'aujourd'hui, donc je ne vais pas en parler beaucoup, Rousseau dit « Ce n'est pas que je ne veuille pas de spectacle à Genève, c'est que je me méfie de ces spectacles exclusifs. » C'est la façon dont il décrit les spectacles qui se font dans les théâtres. Et il dit « Il nous faut d'autres fêtes, des fêtes en plein air, des fêtes, je le cite, où tout le peuple prenne part également, comme chez les anciens. » C'est quelque chose qui revient très souvent chez lui. Et par conséquent, oui, on peut penser à la fête de l'escalade. Quand il donne des exemples directement dans la lettre à D'Alembert, il imagine des fêtes sur le lac, par exemple, de Genève, des joutes de bateliers, etc. Et il pense en effet une autre fête pour répondre en disant « je ne veux pas », alors c'est la formule qu'il emploie, « je ne veux pas faire des Genevois un peuple de capucins ». Capucins, ce sont des moines, c'est-à-dire un peuple de moines. Quand je critique le théâtre, c'est pas pour, comme on dirait aujourd'hui, je ne suis pas un taliban qui veut empêcher que les gens s'amusent, mais qui s'amuse vraiment, d'une part, et puis surtout que ce soit une fête qui ne crée pas ou qui ne perpétue pas de la domination. Parce que le théâtre, pour lui, en tout cas tel que le pense D'Alembert, c'est un théâtre qui exclut, qui privilégie, qui sépare, qui fait que les gens ne se regardent pas les uns les autres, qui regardent une scène, et puis qui se confortent dans leurs préjugés. Alors tout l'argument de Rousseau est assez complexe. Mais quoi qu'il en soit, il propose donc des alternatives à plusieurs reprises dans la lettre à D'Alembert et dans le reste de son œuvre en général. Alors pour d'ailleurs revenir sur ce que disait Mélanie tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait chez Rousseau l'idée d'une... Alors, ce n'est pas exactement l'expression que vous avez employée, de sacralisation du social qui serait déjà donnée. Il y a une réflexion sur la dimension foncièrement sociale de la fête, oui, la construction du social par la fête. Mais la différence, c'est que chez Rousseau, il y a différents types de sociétés, de sociabilité, de socialisation. Et la question de savoir comment on construit de la société est derrière sa réflexion sur la fête. C'est pour ça aussi qu'il pense, il est un des premiers à réfléchir sur la fête privée, pas seulement publique. Et quand je disais qu'il pense des alternatives aux fêtes existantes, il y a aussi plusieurs textes très intéressants dans lesquels il met en scène un moment où on quitte la fête, alors cette fois-ci mondaine, pour rejoindre la fête populaire. On trouve ça dans l'Émile, dans le célèbre passage « Si j'étais riche », où il imagine un riche qui serait un peu plus intelligent que les riches, et il dit « voilà, je rejoindrai une fête champêtre parce que c'est la vraie fête ». Il y a un passage aussi dans « Les rêveries » où il raconte un souvenir assez horrible d'ailleurs, hein, où il raconte « j'étais faufilé chez les riches ». Et on s'amusait à jeter des pains d'épices sur les pauvres qui étaient dans une foire pour les voir s'empoigner. Et moi, j'ai quitté cette société, je suis allé dans cette vraie fête. Donc le retrait de la fête mondaine, de la fête factice, de la fête exclusive, pour aller vers une fête égalisatrice, ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans sa façon de penser. Une autre sociabilisation par la fête.
Donc le théâtre nous apprend l'inégalité, puisque certains admirent d'autres, sans eux-mêmes donner du spectacle, alors que la fête populaire, la vraie fête, nous nous sentons profondément égaux. Alors cette thématique qui est très forte dans la lettre à D'Alembert de 1758, vous venez de très très bien l'expliquer. 3 ans avant, Rousseau a écrit son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité entre les hommes, et il suggère que dans les fêtes naturelles, belles et égalitaires, il arrive un moment où les choses peuvent se retourner. Chacun, je le cite, commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent devint le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers l'inégalité et vers le vice en même temps. La fête où tout le monde est, où chacun est l'égal de l'autre, n'est-elle pas éminemment fragile ? Blaise Bacoffen, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on voit que certains dansent, chantent et jonglent bien mieux que les autres, et l'inégalité, elle arrive.
Alors en effet, c'est un des deux textes, donc le début de la deuxième partie du discours sur l'inégalité, et un texte que peut-être on entendra tout à l'heure, de l'essai sur l'origine des langues, qui est à peu près contemporain, dans lesquels Rousseau met en scène une sociabilisation qui se fait dans une situation dans laquelle on va qu'à ses occupations communes, et il dit lui-même qu'on s'apprivoise d'une certaine façon. Et on s'apprivoise comment ? D'abord par la séduction. D'où l'ambivalence que vous évoquez, parce que la séduction, elle implique à la fois le désir d'être aimé, une dimension d'amour commun, mais aussi d'être préféré. Et c'est toujours présent, les deux, chez Rousseau. Aimer, ce qu'il appelle l'amour-préférence, implique l'idée d'être digne de l'amour. Et donc, il y a une dimension d'élévation dans ce désir d'être aimé et d'aimer. Mais il peut y avoir aussi une part de jalousie. C'est ce qu'il décrit très bien, effectivement, dans le discours sur l'égalité, dans le texte que vous avez évoqué. Et la présentation dans le discours sur l'égalité de la fête primitive, elle est très ambivalente, puisqu'il dit que c'est à la fois à l'origine de du sentiment de l'honneur auquel il fait une place importante, mais aussi des vengeances qui deviennent terribles. Et on peut le comprendre, d'ailleurs, parce que ne pas être aimé, ne pas être préféré, ça peut susciter des sentiments extrêmement violents et de ressentiment et même de désir de vengeance. Donc, en effet, la fête pour Rousseau est toujours présentation de la sociabilité en tant qu'elle est toujours une forme de concurrence, mais une concurrence qui peut être plus ou moins construite, constructive, et dépassée vers la volonté d'être aimé plutôt que la volonté d'être jalousé.
Donc la bascule peut toujours s'opérer, c'est ce que j'ai entendu dans votre explication. La bascule où certains admirent d'autres et cessent de se penser comme des participants pleins, entiers, à la fête. Alors je vous propose, puisque vous avez fait référence à l'essai sur l'origine des langues, qu'on écoute cet extrait très célèbre. Alors là, c'est la fête idéale, absolument idéale, à l'origine, dans un état de nature dont évidemment personne ne sait s'il a vraiment existé. Et puis nous poursuivrons peut-être en mettant en valeur quand même les problèmes ou les questions que tout cela pose. Écoutez Rousseau.
Dans les lieux arides où l'on ne pouvait avoir de l'eau que par des puits, il fallut bien se réunir pour les creuser, ou du moins s'accorder pour leur usage. Telle dut être l'origine des sociétés et des langues dans les pays chauds. Là se formèrent les premiers liens de famille, là furent les premiers rendez-vous des deux sexes. Les jeunes filles venaient chercher de l'eau pour le ménage, les jeunes hommes venaient abreuver leurs troupeaux. Là, des yeux accoutumés aux mêmes objets dès l'enfance commencèrent d'en voir de plus doux. Le cœur s'émut à ces nouveaux objets, un attrait inconnu le rendit moins sauvage, il sentit le plaisir de n'être pas seul. L'eau devint insensiblement plus nécessaire, le bétail eut soif plus souvent, on arrivait en hâte et l'on partait à regret. Dans cet âge heureux où rien ne marquait les heures, rien n'obligeait à les compter, le temps n'avait d'autre mesure que l'amusement et l'ennui. Sous de vieux chênes, vainqueur des ans, une ardente jeunesse oubliait par degrés sa férocité. On s'apprivoisait peu à peu les uns avec les autres. En s'efforçant de se faire entendre, on apprit à s'expliquer. Là se firent les premières fêtes. Les pieds bondissaient de joie, le geste empressé ne suffisait plus, la voix l'accompagnait d'accents passionnés. Le plaisir et le désir, confondus ensemble, se faisaient sentir à la fois. Là fut enfin le vrai berceau des peuples. Et du pur cristal des fontaines sortir les premiers feux de l'amour.
Essai sur l'origine des langues de Jean-Jacques Rousseau, donc texte écrit, vous venez de me le préciser, Blaise Bacofen dans la dernière partie de sa vie, mais peut-être a-t-il commencé à peu près en même temps que l'écriture du discours sur l'origine de l'inégalité. En tout cas, on l'a publié de manière posthume en 1781. Mais ça se passe où, cette chose merveilleuse? On est où, là? Où l'amour n'est pas contraint, il n'y a aucune agence matrimoniale ancestrale, car c'est une vieille affaire, quand même, dans les histoires des humains, d'organiser les mariages. Non, non, pas du tout, c'est spontané, c'est dans les regards, il y a à la fois l'amusement, l'ennui, c'est-à-dire l'oisiveté douce, il n'y a pas besoin de travailler, il n'y a pas de domination, ni de hiérarchie entre les êtres, et ça, c'est la vraie fait. Ça se passe où?
Alors, comme très souvent chez Rousseau, les récits fictifs et les récits de Genèse, et il y en a aussi bien dans les récits autobiographiques que dans les récits anthropologiques que politiques, on peut comparer ça au mythe, pour le coup quelque chose que connaissent bien les sociologues, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui est imaginaire et qui dit quelque chose de vrai. Et je pense qu'il faut vraiment à chaque fois penser la description de la fête chez Rousseau comme une sorte de modèle et de contre-modèle. Alors, bien sûr, ça n'est pas un moment qu'il identifie de façon spécifique, quoique on peut identifier ça aux sociétés nomades qui vont ensuite devenir sédentaires. Ce qui est très intéressant dans ce magnifique texte du chapitre 9 de l'essai sur l'origine des langues, qui effectivement a probablement été commencé en même temps que le discours sur l'égalité, et ensuite Rousseau y a travaillé de nombreuses années, c'est qu'il dit « on commence par aller pour des raisons utilitaires au puits, on vient faire abreuver les troupeaux, on vient chercher de l'eau. » Et ensuite, l'eau devint insensiblement plus nécessaire. En fait, elle ne devient pas. On y va parce qu'on sait qu'on va y rencontrer. Les jeunes gens vont rencontrer des jeunes filles, les jeunes filles vont rencontrer des jeunes hommes. Et on se met à faire autre chose. Alors là, c'est très belle phrase. Les pieds se mettent à bondir de joie, le geste empressé ne suffit plus. Et quand je dis que c'est un contre-modèle, juste très rapidement, j'ai remarqué une chose en faisant un peu de recherche, c'est que dans l'encyclopédie, quand on parle de la fête, il y a un très long article de 6 pages, et c'est beaucoup 6 pages dans l'encyclopédie originelle, d'un certain Joachim Feguet, qui parle des fêtes religieuses et qui plaide pour la suppression de la quasi-totalité des fêtes religieuses. Et il le fait, il fait aussi l'article dimanche, en disant à peu près la même chose, il faudrait travailler le dimanche, en disant... Il y a 37 fêtes à Paris, c'est beaucoup trop, il faut arrêter parce que ça coûte de l'argent, ça empêche les gens de travailler.
C'est très à la mode, hein. Vous êtes au courant pour qu'on arrête les jours fériés?
Je pensais à des personnes...
Parce qu'on a des petits soucis de dette qui ne vous ont pas échappé.
On croirait parfois entendre Dominique Seux ou l'Anglais qui nous disent qu'on ne travaille pas assez. Donc il dit, il y a 37 fêtes à Paris, il en faudrait beaucoup moins, il propose qu'il n'y en ait plus que 5 ou 6, etc. Aujourd'hui, en France, on a... environ 36 jours non travaillés, 25 jours fériés, 11 jours fériés et 25 jours de congés payés. C'est à peu près le nombre de fêtes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de congés payés. Pourquoi est-ce que je raconte ça et ce discours de Feguet sur le fait qu'il faudrait travailler plus, parce que vraiment la fête s'empêche de travailler, c'est que Rousseau le présente toujours, enfin bien souvent, comme étant un moyen. Alors ça, c'est vrai aussi de la fête rurale, c'est vrai de la fête des vendanges dans la Nouvelle-Louise, c'est vrai aussi des... comme un moment où le peuple va enfin pouvoir souffler et va, dans ses travaux, trouver un moment de répit.
Et vous trouvez que ça, depuis longtemps, ça inquiète les gouvernants et les puissants et les élites, cette envie de jouir? Parce que c'est de ça quand même qu'il s'agit, de se reposer. C'est inquiétant, c'est ça que vous voulez nous dire, que ça fait longtemps que ça inquiète tout le monde?
Alors, il y a deux choses, parce que c'est vrai que Rousseau évoque, par exemple, dans la Nouvelle-Héloïse, les fêtes de l'Antiquité où on renversait les rôles. Et il ne préconise pas ça. Il trouve que, bon, alors c'est vrai que la Nouvelle-Héloïse, c'est un texte un peu paternaliste et un peu particulier. Mais disons que, encore une fois, je ne pense pas que ce qui le soucie ou ce dont il parle ici, ça soit tellement l'idée d'une fête qui inquiète le pouvoir que plutôt d'une fête par laquelle on se retire de l'ordre commun de la production, de la consommation, et on se met à faire autre chose. Et ce qui est magnifique dans le texte qu'on a lu, c'est « rien ne marquait les heures, rien n'obligeait à les compter ». Rousseau raconte, hein, quand il parle de sa réforme, qu'il posait l'épée, il vendit sa montre en se disant avec une joie incroyable, grâce au ciel, je n'aurai plus besoin de savoir l'heure qu'il est. Et ce désir d'un temps d'oisiveté dans une période où on se met à compter de plus en plus, c'est comme ça aussi le XVIIIe siècle, mmh. c'est le temps de l'économie, c'est le temps des physiocrates, c'est le temps où on se met à compter de plus en plus. Feguet compte même le nombre de sous qui sont perdus à cause de ces fêtes.
Mélanie Plouvier, spécialiste de Durkheim, vous souhaitez réagir à cette idée rousseauiste qu'il est bon d'avoir d'importants moments où nous ne comptons pas les heures.
Je crois effectivement qu'on a trouvé là un point de convergence fort entre Rousseau et Durkheim. Durkheim également met en face des fêtes le travail. Et il le pense selon cette rythmique particulière de l'alternance des jours travaillés et des jours chômés. Les jours de fête sont des jours chômés. Et ce qui est très intéressant, c'est que se joue dans cette alternance effectivement le repos, le fait de sortir d'une métrique, de sortir de l'ordre de la production. Mais pour Durkheim, il se joue encore plus ce que, par exemple, les jours, l'alternance des jours travaillés et des jours fériés marque, c'est cette perpétuation d'une forme d'alternance entre le profane et le sacré. Les jours fériés, les jours festifs sont, pour Durkheim, ces moments où on sort de l'ordre du travail, de l'ordre de la production profane et qu'on a, et au cours desquels on atteint une forme de sacralité qui n'est plus religieuse.
Aujourd'hui, la nation républicaine s'est réunie pour fêter l'être suprême, tous ensemble, nous allons mettre le feu à des mannequins de bois qui symbolisent l'ambition,
allez, allez, alléluia,
le fléau de l'athéisme,
allez, allez, alléluia,
la fausse simplicité,
alléluia,
et l'égoïsme.
Allez, allez, alléluia.
Sagesse, appelle à notre jeunesse,
alléluia,
la discipline. Célébrons,
alléluia,
dans la joie républicaine,
alléluia,
et fléquons comme il se doit.
Et c'est Alain Bachung que vous entendez là en 1973, figurez-vous. Il chante la fête de l'être suprême car il est Robespierre dans la comédie musicale de Claude-Michel Schoenberg et Raymond Jeannot, La Révolution française. Et ce Robespierre-là chante l'être suprême en précisant qu'il est contre les athées. C'est un moment très intéressant de la Révolution. On veut récupérer la transcendance religieuse. Mais Durkheim, avec vous, Mélanie Plouvier, nous dit que oui, c'est un moment. Il y aura plus tard des moments véritablement de, où on fêtera des choses tout à fait laïques, transcendantes, mais pas religieuse. Merci Mélanie Plouvier, merci Blaise Bacophone. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il se demande ce qu'est le public. Voici le pourquoi du comment.
Comment se constitue le public ? Dans chaque société humaine, il y a des sujets communs, des sujets d'intérêt commun, et il y a aussi des moments où on en parle explicitement, où on en parle, comme on dit, publiquement. Bien entendu, ces moments ne sont pas institués de chaque manière dans chaque société, mais ils sont toujours fondamentaux. On n'imagine pas de société qui ne se réunisse pas autour, par exemple, de son chef ou d'une assemblée qui l'incarne en partie pour parler des sujets communs. Peut-être est-ce là la différence entre le commun et le public. Le bien commun, c'est d'abord ce qui est nécessaire pour vivre et peut-être d'abord aussi, tout simplement, pour ne pas mourir. Nous avons besoin des autres pour survivre. Une société est d'abord une invention des humains ou un mécanisme de la vie, peut-être au départ, transformé par les humains pour résister à la mort, aux dangers justement communs, aux dangers publics, comme on dira plus tard justement quand le public se sera distingué progressivement du commun. Le public, ce n'est donc pas simplement le commun malgré tout, la chose commune, ce qui nous est indispensable à partager pour survivre, pour résister à des dangers qui nous menacent ensemble. Le public, c'est plus précisément ce qui fait l'objet d'une action commune sur le commun, d'un discours réflexif, ce qui constitue un espace explicitement partagé pour parler des choses partagées. Le public est donc toujours réflexif et c'est peut-être pourquoi aussi dans la langue française, en tout cas, le public désigne aussi bien ce qui est montré, ce qui est partagé, que ceux qui regardent, le public au théâtre, le public, que sais-je, d'une émission de radio, le public d'une opinion publique qui, dans nos société, justement, est indispensable pour parler, pour discuter des choses publiques. Il faut connaître à la fois ce qui est public et ce qui fait public, ce à quoi le public assiste, ce qui le constitue comme public. Or, le propre des sociétés modernes et des sociétés démocratiques aussi, en particulier, mais peut-être de la modernité politique, c'est d'instituer le public pour le, justement, comme sphère spécifique de parole, non seulement le bien commun, parfois confondu avec le bien public, mais justement instituer un espace qui protège le point de vue de tous sur ce qui nous concerne tous. C'est déjà le sens de la chose publique. La chose publique, ce n'est pas seulement la chose commune, comme le montrent notamment Pierre Dardot et Christian Laval dans leur beau livre sur le commun, essai sur la Révolution au XXIe siècle d'ailleurs, une grande synthèse sur toutes ces notions. Le public est justement l'institution d'un espace de discussion partagé sur les choses partagées. La chose devient publique, la res devient publica quand il y a cet espace de respect des uns et des autres pour parler des choses communes. Dans nos sociétés, l'institution du public a donc quelque chose de fondamental, à tel point qu'elle peut se confondre, mais peut-être ne doit pas se confondre entièrement avec l'État. Il est clair que l'État désigne cette auto-institution, avec cette auto-institution de la société pour parler de ce qui la concerne comme un tout, c'est-à-dire la politique, le forum de la raison publique, comme disent les philosophes, c'est l'assemblée représentative. Mais peut-être y a-t-il d'autres manières de se constituer comme public, non seulement au théâtre ou dans l'art, ce qui est fondamental depuis la démocratie grecque, mais se constituer comme public pour parler des choses publiques dans le cadre de la République.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.